Et comme chaque matin, nous sommes avec un nouvel invité. Il est valdoisien, il arrive tout droit de Cergy-Pontoise. C'est Mickaël. Bonjour Mickaël, bienvenue sur IDFM, la radio la plus valdoisienne de l'Île-de-France. Mickaël Mézère, qui est créateur d'une plateforme qui se prénomme Château en France. Et à Cergy, pour arriver jusqu'ici, ça a été la circulation.
Oui, oui, ce matin, il n'y a pas de souci.
Nous sommes quand même
tout
confinés, donc du coup, moins de circulation.
Ouais, moins de circulation, et puis bon, ça va, on n'a pas encore l'autoroute A15 qui va être avec du covoiturage, mais ça va, tout se passe bien ce matin, le soleil est là, la journée va être belle. Donc, que demander de mieux?
Nous allons parler du patrimoine des châteaux, mais pas que, puisque sur cette plateforme, vous proposez aussi une multitude d'activités. Tout d'abord, vous êtes né sur le Val-d'Oise ou pas?
Non, je suis comme beaucoup. Alors, je suis pas breton, mais je suis du nord de la France, hein, de Lille, pour être, qui est une très belle ville aussi, assez chaleureuse. Mais je suis arrivé à la fin de mes études, il y a quelques années maintenant, sur le Val-d'Oise. Hein, donc, alors d'abord dans les Yvelines et maintenant sur le Val-d'Oise, dans le Vexin, puis après sur Cergy pour travailler avec un écosystème à Cergy qui est aussi très très intéressant, sur lequel il y a plein de dynamisme. Et le Val-d'Oise, le chausseur est toujours le moins bien chaussé. Il y a aussi plein de patrimoine autour du Val-d'Oise. Donc du coup, on a créé aussi cette plateforme qui n'est pas consacrée qu'au Val-d'Oise, mais aussi au Val-d'Oise, avec l'abbaye de Maubuisson, Royaumont, etc., qu'on présente sur la plateforme.
Le château d'Hérouville, non.
On n'a pas encore tout fait, parce que
bien
c'est quelque chose qui a été...
De petits, de grands châteaux à découvrir sur le Val-d'Oise.
Tout à fait. Mais ce n'est pas tant les grands châteaux qui ont besoin, effectivement, d'être digitalisés, surtout dans cette période un peu anxiogène. Et c'est surtout, effectivement, tous ces petits châteaux, tous ces petits musées qui sont très, très riches en patrimoine et sur lesquels on a les propriétaires ou les équipes de bénévoles, les amis des châteaux, les amis du musée. Et quand on arrive sur les visites, c'est des gens qui sont contents de présenter leur château, qui est leur château parce qu'il est dans la famille depuis parfois plusieurs siècles, mais aussi les techniques avec le musée de l'outil, par exemple, dans le Vexin. Les tableaux, des choses comme ça, c'est pas le Louvre qui a besoin de nous. Le Louvre, il a une notoriété, ou Versailles pour parler de château, il a des notoriétés qui n'ont plus besoin d'être accompagnés. Par contre, tous les petits châteaux ont besoin d'être accompagnés. Et ça, c'est vraiment un bonheur au quotidien aussi d'aller chercher ces informations et puis pouvoir partager ces informations avec des familles qui cherchent à se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire ce week-end, en ce week-end de Pâques par exemple. Est-ce qu'il y a des chasses à l'œuf? Alors, la situation sanitaire aujourd'hui est un peu compliquée.
C'est pas terrible, oui.
Mais
pourquoi pas?
Mais des chasses à l'œuf, il y en a. Alors, en extérieur, il y en a. Certaines, on ne peut pas faire les pique-niques aujourd'hui, mais ça va revenir. Il faut être optimiste. Ça va revenir à un moment ou à un autre. Est-ce que ça sera cet été? Est-ce que ça sera un peu plus tard? Mais ça n'empêche pas que le patrimoine vit toujours.
Tout à fait. Et toute l'année, de toute façon, on peut visiter un château, répondre à des énigmes, rencontrer pourquoi pas des fantômes, parce que tous ces châteaux ont des âmes. Est-ce que vous avez notamment côtoyé les propriétaires d'un château que moi j'ai côtoyé durant de nombreuses années, qui est juste à côté, qui est à Aubonne, le château de la Chênaie? Est-ce que vous le connaissez?
Alors,
un petit peu,
je le connais. On n'a pas côtoyé les propriétaires encore, hein, parce que déjà nous, je suis un importé de province, mais
oui. Et puis l'activité, a commencé dernièrement, fin de l'année dernière.
Voilà. En fait, ça s'est produit. C'est parti d'un ma conjointe Nathalie.
Coucou Nathalie.
Voilà. Coucou Nathalie. Qui nous écoute, on préparait nos vacances entre le deuxième et demi confinement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes de réservation qui sont là que pour faire de la réservation et
pour vendre.
Un max de trafic et pour vendre, et qui explique pas forcément les lieux, qui explique pas forcément l'intérêt du lieu. Alors même pour des gîtes, hein, parce qu'on peut nous on aime bien effectivement, on est au petit déjeuner le matin avec le gîte, et puis on a la alors c'est parfois la dame, parfois le monsieur qui dit vous pouvez aller visiter cet endroit-là qui est pas sur les grosses plateformes. Ou alors j'ai une anecdote d'un propriétaire de château qui a 94 ans, le monsieur, et qui me dit moi quand les gens ils viennent dans mon château là-dessus, moi c'est pas faire de l'argent à 3 € l'entrée, c'est pas pour ça qu'il vit, mais il me dit du coup je vais aller leur faire visiter, je vais derrière le pigeonnier et je vais au fond du pigeonnier, il y a des souterrains, je leur fais voir les souterrains. Et le bonhomme, il est super heureux de présenter ça. Toi, en tant que visiteur, t'es super heureux parce que c'est quelque chose que tu vois pas forcément.
Une visite originale.
Et c'est une visite originale. Et c'est pas forcément la grande histoire, Mais c'est la petite histoire, c'est la petite rivière qui fait qu'il y a une grande histoire, et comme les fleuves.
Bah, dans tous les châteaux, il y a eu des petites, voilà, des grandes, des moyennes histoires.
Voilà. Et c'est ça qui est super intéressant, et c'est ça que nous on essaie de faire découvrir à travers la plateforme, en disant, bah tiens, tu connais un grand château, mais il y a tous les châteaux d'à côté qui sont intéressants, bah, ce dont on parlait. Hein. Et souvent, c'est les gens qui sont à côté qui ne visitent pas les châteaux. Moi, on parlait de l'abbaye de Maubuisson, par exemple. Je pense qu'il y a plein de Valdoisiens qui n'ont jamais été à l'abbaye de Maubuisson.
C'est vrai.
Ou l'abbaye de Royaumont, qui est magnifique.
Le château des Coins, bon, vous
voilà,
le connaissez.
Les châteaux des Coins, qui est un peu plus connu, effectivement. Mais on a tendance à vouloir aller toujours très, très loin. Mmh. Et là, il se trouve qu'en cette période, bah, étant donné qu'on est un petit peu contraint, bah, allez, soyons positifs, visitons un peu ce qu'on a à côté de chez nous. Et c'est l'occasion, de le faire.
Une question piège, m'inexcuse, Michael. Vous savez combien il y a de châteaux sur le Val d'Oise? Moi-même, je ne le sais pas.
Alors, sur le Val d'Oise,
est-ce que vous vous êtes renseigné ou pas?
Nous, on a la plateforme. Alors, on est sur le Val d'Oise. Il y en a beaucoup. Mais moi, je peux répondre sur la France. Sur la France, il y a. Alors, est-ce qu'on est le pays au monde où il y a le plus de châteaux? Tiens, je retourne
la
question.
Bonne question. Je dirais pas loin.
On n'est pas loin, non. Alors, le pays où il y a le plus de châteaux, alors ça dépend comment on définit un château, c'est l'Irlande, en fait.
D'accord.
Avec beaucoup de manoirs, etc. En France, on a 30 000 châteaux en France.
C'est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal, il y en a 3 000 qui se visitent. Et c'est ceux-là qu'on voit, parce qu'un château qui se visite pas, malheureusement, c'est très bien, mais le voir en photo, c'est un peu frustrant parfois de rester sur la grille. Puis on peut comprendre que les propriétaires, ils peuvent forcément faire visiter leur bien, hein. Moi, je ne ferais pas visiter ma maison à tout le monde, qui n'est pas un château, mais qui est déjà une jolie maison. Mais dans le Val d'Oise, il y a entre les châteaux et les patrimoines, nous, aujourd'hui, on a en référence une centaine de lieux, et on a tendance, voilà, et on le fait, le but du jeu, c'est pas d'avoir tout, mais d'avoir bien. Donc, quel lieu, on va prendre, est-ce que je peux visiter l'abbaye de Royaumont?
C'est vrai, ça, c'est important de le souligner. Par exemple, à Méry-sur-Oise, il y a un château. C'est pas possible de le visiter.
Voilà.
On peut, éventuellement le découvrir à l'intérieur quand la commune organise des événements.
Voilà.
Mais sinon, c'est très, très rare.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se visitent aussi aux journées du patrimoine. Mais effectivement, les journées du patrimoine, c'est une
c'est
fois dans l'année.
C'est deux jours, oui.
Deux jours dans
une
l'année,
journée,
généralement
jours.
En septembre. Parfois, on le fait aussi un peu en été, avec les nuits de musée, des choses comme ça.
C'est un
petit
peu léger.
C'est très bien. Mais nous, on l'a prévu, ça, dans notre agenda. On a créé un agenda aussi sur la plateforme en disant, bah tiens, je suis dans le Val d'Oise le dernier week-end de septembre, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et là, dans ce cas-là, on va pouvoir avoir effectivement les journées du patrimoine et ce qui se visite. Mais effectivement, l'idée, c'est de dire, bah, je prépare mes vacances, qu'est-ce que je peux faire? Je suis là pendant une semaine, entre la première semaine de juin, qu'est-ce que je peux faire? Il y a les activités, et surtout, on associe une activité à un château. Par exemple, là, on va aller dans le Val. Alors, il y en a pas dans le Val d'Oise encore, mais on espère des concerts dans des châteaux, alors concerts, opéras, etc. Et de dire, bah tiens, il y a un concert qui va être fait, c'est intéressant. Alors là, j'étais sur Saint-Germain. Alors c'est dans le 78, mais
c'est pas très loin.
Mais c'est pas très loin non plus, hein, parce qu'on on sectorise pas non plus en disant, t'as pas le droit de passer la frontière du Val d'Oise, même si on est confiné à moitié. Mais de dire, bah tiens, là, il y a une découverte à la fois de la musique. L'opéra, c'est quelque chose un peu différent, et à la fois du château. Et donc, on met ces événements en avant, et on met aussi ces événements sous forme de quiz. Alors, on l'a fait sur nos réseaux sociaux, et du coup, on a sorti, effectivement, parce qu'il y a une demande, on a une petite communauté depuis 3 mois, de maintenant, que pas loin de 3500, 4000 personnes qui suivent la plateforme, et de dire, bah tiens, ils nous posaient des questions, en quelle année a été construit ce château? Et là, faut être précis, hein, faut pas se tromper deux jours de semaine.
Actuellement, voilà. Michael, sur votre plateforme, vous référencez 1100 châteaux.
Hein. Ouais, actuellement, on référence 1100 lieux. On a deux patrimoines en France. On a le patrimoine passé. Donc c'est les châteaux, les musées, les œuvres d'art. Par exemple, on peut avoir le pont du Gard, par exemple, qui est pas un château, mais qui est du patrimoine. Mais on va avoir aussi le patrimoine vivant. Et en France, on a des patrimoines vivants qui sont la gastronomie. Donc où est-ce qu'on peut? J'ai visité l'abbaye de Maubuisson. Où est-ce que je peux aller manger un truc sympa? Bah tiens, voilà, il y a quelques restaurants qui sont bien. Où est-ce que je peux aller dormir? Parce que je peux venir, mes parents qui viennent par exemple, qui sont de la région donc lilloise, s'ils viennent, ils vont pas faire l'aller-retour dans la journée. Où est-ce que je vais les faire dormir chez moi, mais où est-ce qu'ils pourraient dormir sinon? Quel gîte peut être sympa, etc. Donc on a la moitié, c'est du patrimoine du passé, L'autre moitié, c'est du patrimoine du vivant.
On sent bien que vous êtes un vrai passionné du patrimoine, de l'histoire de France. Donc, je rappelle que nous sommes toujours avec Mickaël Mézer, créateur de la plateforme Château en France. Vous avez évoqué aussi votre femme, Nathalie, qui a créé aussi cette plateforme avec vous, puisque vous nous avez raconté la petite histoire que vous avez vécue. C'était compliqué de trouver sur certains sites, sur certaines plateformes, que voir, que découvrir dans la région où vous vous arrêtez. Nous allons parler aussi de quelques jeux de cartes autour justement des châteaux et du patrimoine. Et c'est vrai que des châteaux, vous l'avez dit, il y en a énormément, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore plus en France. Certains sont peut-être pas suffisamment référencés puisque à l'abandon. Je sais qu'il y a un château par exemple ici en Guin-les-Bains, donc qui appartient à un propriétaire. Il y a plein de soucis ici avec ce château parce que la ville c'est pas son château. Mmh. Il y a aussi un très beau château à découvrir sur les traces de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise. On reparlera du patrimoine, de châteaux, d'activités, le musée Colette aussi qui vous a intéressé sur votre plateforme, un très joli musée que j'ai eu l'occasion de visiter il y a un petit peu plus d'un an. Nous reparlons du patrimoine français dans un instant avec Mickaël Mézer sur IDFM, juste après Aventura. Something flavor. Aventura. Hello. Solo escucha.
Son las 5 de la mañana. Yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es complacido. Por eso no hay motivos para yo respetar.
No, no es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas. Así funciona el corazón.
Solución, yo sé que le gustaba y le di una mirada con par de palabritas. Tu número me dio, mi única esperanza es que oiga mis palabras.
No puedo, tengo novio.
No me enganches, por favor.
No, no es amor.
Escúchame, por favor.
Lo que tú sientes,
¿qué es?
Se llama obsesión.
Solo hablar de ti, lo que sé es que soy tonto, privón y también loco, pero es que en el amor soy muy original.
Let me find. No es amor, no es amor. Es una obsesión.
No,
no es amor, no es amor.
No, no.
Es una obsesión.
No.
Aventura Obsession sur IDFM Radio Anguin.
La matinale, IDFM Radio Anguin, l'infotrafic.
Tout d'abord, du côté de la ligne H du Transilien, je vous rappelle que toute cette semaine jusqu'au 2 avril, le trafic est interrompu en soirée à partir de 23h30 entre Hermont-en-Bonne et Pontoise suite à des travaux de maintenance. Et actuellement en Ile-de-France, 134 kilomètres de bouchons, avec notamment un véhicule léger en panne du côté de la A3 entre Aulnay et Gonesse depuis 7h32. Il est pratiquement 8h31. Nous faisons un nouveau point, le rappel de vos quelques informations valdoisiennes. Covid-19, le taux d'occupation des lits de réanimation frôle les 130%. Le Val-d'Oise, département de France où le taux d'incidence est le plus élevé, il est de 804,98 contre 362 début mars. Vente de téléphones cryptés, les premières mises en examen. Un Marseillais de 23 ans fait partie des 5 hommes soupçonnés d'avoir revendu en France à des trafiquants des téléphones réputés inviolables, notamment du côté de la commune d'Ermont. Avec son grand ensemble de plus de 42 000 habitants, Sarcelles possède le plus grand quartier en politique de la ville de France, ce qui justifie un programme de rénovation urbaine d'ampleur, selon son maire Patrick Haddad. Le premier volet du nouveau programme national de renouvellement urbain a été validé en novembre 2019. Il concerne les quartiers Lochère et Rosier Chantepie. Dans le cadre du plan de relance, 2 milliards supplémentaires ont été accordés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en début de l'année. Et puis cette dernière info avec un peu de sport, dimanche 28 mars en Saône-et-Loire, l'Albonnaise, l'équipe masculine de gymnastique artistique de Franconville, n'a pu terminer que 10e du top 12, le championnat de France élite gamme, en raison de forfaits et de blessures. C'était l'essentiel de l'actualité valdoisienne sur IDFM. Après ces quelques informations valdoisiennes, nous retrouvons notre invité du jour, un Sergissois. Depuis combien d'années, Michael Mézer ? Vous êtes sur Sergi ?
Maintenant, je suis arrivé dans les années 2000, Voilà, j'ai vécu plus longtemps dans le Val d'Oise que ma région, même si je suis attaché à la région du Nord.
Et vous n'avez pas forcément expliqué dans quel secteur, dans quel domaine vous avez fait vos études, plutôt la communication, l'histoire.
Alors, bizarrement, moi, j'ai fait deux types d'études. C'est d'abord, j'ai fait un bac génie civil, donc dans le bâtiment. Et puis après, j'ai fait un BTS études économie de la construction pour savoir en gros combien il fallait de camions pour créer un pont, est-ce qu'il fallait des gros camions, des petits camions, etc. Et puis on est jeune, on est beau, j'ai fait une année sabbatique, et puis après j'ai continué en école de commerce, en fait, tout simplement dans la région lilloise. Et puis la dernière année, je suis venu sur Paris et j'ai travaillé que dans le digital, en fait, finalement, dans les programmes de fidélité, etc., pendant quelques années. Et puis j'ai travaillé aussi quelques années dans les QR codes, les applications Flash Code, MobileTag, qu'on revoit apparaître avec les applications.
Tout à fait.
Même s'il y avait, pendant quelques temps, ça n'a pas été un gros usage. Aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup plus d'usage. D'ailleurs, on le revoit un petit peu. Ça transpire sur mon jeu.
À travers vos jeux de cartes. Et puis, je rappelle que vous êtes créateur de la plateforme Château en France, donc qui référence une multitude de châteaux, musées, activités aussi à partager en famille. Notamment, j'ai vu le train jaune.
Ah, alors là, vous me faites parler du train jaune. Alors, c'est presque sentimental pour moi, le train jaune. Parce que c'est dans les Pyrénées, Pyrénées orientales. C'est un petit train touristique avec un décapotable. Alors là, les beaux jours arrivent où tu vas monter. Il y a des architectures, etc. Et c'est aussi le pays natal de ma grand-mère. Qui est décédée il n'y a pas très longtemps et qui est maintenant là-bas.
Coucou mamie.
Coucou mamie, qui est à côté du mont Canigou. Et effectivement, c'est une activité pour les enfants qui est géniale l'été, parce que on peut effectivement prendre le train à Villefranche et puis s'arrêter dans les quelques stations qu'il y a. Et s'il fait beau, on a le train version décapotable, on a une vue sympa, on peut visiter des villages qui sont magnifiques, et puis reprendre le train, pique-niquer, etc. Donc c'est vraiment des activités d'expérience aussi, Et c'est aussi comme ça qu'on visite le patrimoine. C'est pas que dans des livres d'histoire, c'est pas que dans de l'architecture pure. C'est aussi, bah voilà, de vivre des expériences. Et le train jaune en est effectivement une belle. Merci de l'avoir cité. Une belle représentation.
On s'était pas du tout concerté. Hein.
Voilà, comme quoi.
Ça m'a interpellé en tout cas, et ça me plairait justement de faire cette activité.
Ah bah, je vous invite fortement à y aller en famille. C'est une véritable activité. C'est un peu ce type d'activité qu'on cherche dans les expériences qu'on propose aux familles.
Sur la plateforme Château en France, c'est un voyage finalement à travers la France. Vous référencez donc château, musée, différentes activités. Vous êtes souvent en étroite collaboration aussi avec des propriétaires, des gérants, des offices de tourisme, parce que vous ne connaissez pas tout, et donc vous avez besoin aussi un petit peu de leur aide pour alimenter cette plateforme.
Voilà, nous on est plus on est un initiateur de contact, en fait, finalement. Et effectivement, là, on crée un magazine régulièrement. On avait créé Valencé. On a fait le numéro 2. Alors, c'est une fois tous les deux mois, un petit magazine papier pour ses propriétaires, justement.
C'est le IMAG.
Le IMAG, voilà, tout à fait, qui est disponible en ligne, mais aussi à destination des propriétaires.
En format papier,
Qu'on essaie de faire de manière modeste, de manière assez modeste. Et là, par exemple, on a les châteaux de la Drôme. Et où ils ont fait des activités pour les enfants dans certains de leurs châteaux, notamment Montélimar. Et voilà, l'idée, c'est de proposer que quand on le lit, on voyage déjà. Aujourd'hui, on peut voyager parce que le climat est anxiogène. Et ben, aller sur la plateforme. Bah vous, même en étant chez vous, vous voyagez chez vous, en fait, finalement, parce que la plateforme est faite de telle manière que, ah bah voilà, j'ai fait le château de Montélimar, bah tiens, il y a le musée du nougat, Montélimar, il y a le musée du bonbon, et ce qui peut intéresser les parents, parce que le musée de Montélimar, bon, les enfants de 6-8 ans.
C'est ce que j'allais dire, effectivement, la plateforme, elle est bien faite dans ce sens-là, parce que vous proposez autour des châteaux différentes activités, et puis on peut visiter un château, pas forcément en costume d'époque, et puis quelqu'un qui nous guide, qui nous raconte l'histoire de France. Pour les enfants, si, c'est intéressant, mais pour les plus jeunes, ça peut être un peu long, un peu rébarbatif. Donc du coup, il y a plein d'autres alternatives aussi.
Bah, là, par exemple, on a mis, je parle de Chambord, donc il y a un très gros musée, il n'a pas besoin de nous, mais ils ont fait une activité aussi, qui est Sting, qui va faire un concert à Chambord le 1er juillet. C'était l'année dernière, c'était prévu, c'est remis cette année. C'est cela, ça accueille un public. Alors certes, peut-être un public un peu quinquagénaire là-dessus, mais aussi des jeunes. Ils font de la techno. Il y a eu du David Guetta, des choses comme ça dans des châteaux. L'idée, c'est de aussi un peu dépoussiérer cette image de c'est un château. En plus, quand on rentre, ça sent le moisi, machin, etc. Non, pas du tout. Mais sur tous ces petits châteaux qui ont plein d'histoires à raconter, qui sont pas connus, et sur lesquels il y a des chasses à l'œuf, on parlait tout à l'heure des escape games, est-ce qu'on va trouver le fantôme, etc. Ça c'est des choses qui sont intéressantes. Bah on parlait aussi effectivement du musée Van Gogh à
Auvers-sur-Oise, son château, le musée,
voilà, sur lequel ils ont inventé une scénographie qui est magnifique.
C'est top.
Et ça effectivement de dire les Valdoisiens, allez-y, c'est super intéressant, y compris pour les enfants, parce qu'il y a du digital, de l'écran, etc. Et c'est vrai que ils aiment bien les écrans en ce moment, de plus en plus, mais sortez un peu de votre écran. Et puis, c'est un peu la liaison entre l'écran, le mobile et le patrimoine qu'on peut avoir autour de ça.
Mickaël, vous nous faites vraiment rêver actuellement, parce que c'est très compliqué d'aller visiter des musées, des châteaux avec la pandémie. Nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau confinement, peut-être encore plus dur. Donc là, il y a un contenu quand même assez rapide, assez simple, avec de très, très belles illustrations, de très, très belles photos, en attendant la réouverture de tout ce que nous sommes en train d'évoquer. Je ne dis pas, certains lieux sont ouverts, mais aujourd'hui, il faut quand même réserver et appeler avant pour pas arriver sur un endroit qui soit fermé.
Voilà. Et puis nous, sur la plateforme, on n'est pas une plateforme de réservation, donc on envoie directement, effectivement, les coordonnées ou le site web ou l'email du propriétaire ou du gérant du lieu, du musée, etc. Et effectivement, on met les horaires standards, mais avec la crise sanitaire, certains sont ouverts. Par exemple, les jardins peuvent être ouverts, mais pas le château. C'est le cas à Vaux-le-Vicomte, qui est un magnifique château. Et ils ont un beau jardin. Il y a le Moi, l'année dernière, j'ai fait le, bah, justement, avec mes parents et mes grands, mes beaux-parents, le coucou, le dîner aux chandelles, etc., avec le feu d'artifice. Là, mais c'est des châteaux qui ont d'énormes animations, mais tous les petits châteaux à côté, ils en ont aussi des animations, mais ils ont effectivement moins d'histoire, c'est moins imposant, et pourtant, c'est des expériences super agréables. Moi, j'ai des châteaux ou des lieux où c'est le propriétaire qui t'accueille quasiment les bras ouverts en disant bah tiens je suis content que vous vous intéressiez à mon histoire ou à l'histoire de ma famille parfois parce que c'est aussi des histoires de famille. Et donc c'est vrai que c'est en ces moments on peut préparer ses vacances, on a un planificateur nous sur la plateforme qui permet de dire bah tiens, je vais aller dans le Val d'Oise du 15 juin au 15 juillet, un mois. Ouais, moi j'aime beaucoup le Val d'Oise. Voilà, et de dire bah tiens, ouais, et nous on va faire des suggestions en disant bah tiens, le lundi tu peux faire ça, le mardi tu peux faire ça et tu crées ton planning de vacances en ligne, tu sais quel est ton budget aussi et c'est aussi une manière de soutenir un petit peu bah tous ces gens, on a soutenu les personnes soignants, on soutient maintenant aussi les écoles ou les différents organismes qui sont obligés de fonctionner. La culture, c'est aussi un élément essentiel. Même si on peut effectivement la stopper un certain temps, ils ont besoin aussi d'être soutenus et nous on a besoin aussi de s'évader et c'est une manière. Moi, l'équipe qui travaille sur le référencement, etc.
C'est combien de personnes d'ailleurs ?
Aujourd'hui, on est 4. On est 4 personnes à Cergy, à la Turbine. On en reparlera un petit peu, un peu dans quelques jours sur cette même radio d'ailleurs. Mais l'idée, c'est bah, finalement, nous, on s'est fait un jour, on s'est fait la Corse, un jour, on s'est fait le Val d'Oise, un jour, on se fait. Et finalement, on voyage. On a les gens au téléphone et on a des. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre premier critère de sélection, c'est d'avoir des gens qui sont passionnés par leur lieu.
Et sur la plateforme, vous êtes un peu obligé de référencer quand même les grands châteaux.
Oui.
Versailles, Chantilly.
C'est comme un vendeur de glace. Vous êtes obligé de référencer la glace à la vanille.
Oui.
Mais vous pouvez avoir plein d'autres, voilà, la fraise ou le chocolat, mais après vous allez avoir la mangue, la glace à la bière.
Mais ça va permettre justement au public d'aller découvrir d'autres châteaux, d'autres choses.
Exactement. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, bah, t'as visité Chambord. Tiens, à Chambord, il y a Ville-Savin qui est à côté, qui est un château à côté, qui s'appelle c'est la cabane de chantier de Chambord. Et là, pareil, c'est une amicale qui gère ce château. Et franchement, la visite guidée, elle est vachement plus intéressante que la visite guidée de Chambord parce qu'on a quelqu'un de passionné. On n'a pas quelqu'un qui est un professionnel du tourisme, on a quelqu'un qui est un professionnel de son château. Et ça, c'est quelque chose d'assez jouissif quand on y va. Et puis, qui s'adapte aussi. Le guide, si vous avez des enfants, bah, il va s'adapter. Il va pas parler, de date en longueur de temps, mais il va parler éventuellement, bah, tiens, tu sais comment on a fait ce mur, comment ce toit il a été fait, etc. Et ça, c'est plus intéressant, pour le public qui va venir visiter le château que d'avoir des trucs qui sont préformatés dans des grosses usines parce que bah, là les grosses usines malheureusement c'est comme toute grosse entreprise, elles sont obligées de formater un produit.
Je parlais tout à l'heure du musée Colette qui vous a interpellé sur la plateforme, qui vous a encouragé justement parce qu'ils étaient peut-être un petit peu surpris que le musée soit référencé sur votre plateforme.
Ouais, tout à fait. C'est un échange. Au début, la plateforme, c'est pas quelque chose de commercial. C'est quelque chose qui est sorti un peu des tripes de Nathalie et de moi, dont ma compagne.
Je rappelle Nathalie, voilà, c'est votre compagne.
Qui était de dire, bah voilà, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? On se met à la place du voyageur et après tout, les musées nous offrent quelque chose finalement. Alors même s'il y a un ticket payant, etc., mais ils ont besoin de se financer, c'est normal. Mais ils nous offrent quelque chose. Bah nous, on leur offre. Bah là, moi, c'est aussi une manière pour nous de leur offrir quelque chose en échange, en disant bah nous, on est un peu professionnels du digital. Moi, c'est mon métier depuis 20 ans, depuis que je suis sur Paris. Donc de dire bah on va faire un site qui est propre, qui est joli. C'est pas un site où ça clignote de partout. Et effectivement, bah on est. Et voilà, il y a des échanges qui se font. Et on parle du musée Colette, mais voilà, les témoignages qu'on fait, c'est vraiment de dire, bah il y a de l'esthétisme. On présente le musée, on essaye de le présenter au mieux, mais c'est toujours le propriétaire ou le gérant qui parle du mieux de son lieu. Parce qu'il en parle. Il y a des gens qui sont amoureux de leur voiture. J'ai un peu plus de mal à le comprendre, à part si c'est peut-être des voitures de collection. Les gens sont amoureux de leur musée. Ils sont amoureux de leur lieu. Ils sont amoureux de la gastronomie qu'ils font. Quand on voit les mots qu'ils emploient pour parler de ce qu'ils font,
c'est de l'amour,
ce qu'ils sont,
c'est de la passion.
C'est leur bébé en fait. Il y en a beaucoup qui ressortent en disant c'est mon bébé. Donc
Michael Mézer, créateur de la plateforme Château en France, est toujours sur IDFM. Nous allons maintenant parler un petit peu des jeux de cartes quand même, puisqu'en parallèle de cette plateforme, vous avez créé des jeux de cartes qui sont déjà en vente uniquement sur le site. Hein. Le site, donc, c'est château-en-france.com à destination du jeune public, mais pas que. Ces jeux de cartes s'adressent à partir de 6-8 ans après. Alors, pour les adolescents.
Voilà, ouais. Effectivement, en fait, on a eu une communauté qui s'est créée à partir de décembre. On a créé notre petit groupe Facebook. Là, c'est Nathalie, justement, ma conjointe, qui gère le groupe. On se dit, bah, tiens, on peut gérer ce groupe. On va pouvoir discuter. Est-ce que vous avez des châteaux à proposer? Est-ce que vous avez des anecdotes? Et ce groupe a grossi. Aujourd'hui, entre Facebook, Instagram et les réseaux sociaux, on a 3 500 personnes qui nous suivent et nous demandaient de faire des petits jeux comme ça. Des petits, voilà, en quelle année était construit le château de Caen? Ah bah, machin, etc. Les gens répondaient. Et on s'est dit, tiens, bah, ça peut être intéressant. On a plein de contenu, vu qu'on a plus de 1000 lieux. À l'époque, on en avait 800 lieux qui ont des histoires. Donc, il y a plein de petites anecdotes. Et de se dire, bah, tiens, on va pouvoir créer des quiz. Alors, au début, on en avait créé un. Et ça, c'est un peu un défaut. On les connaît, les châteaux. Donc, forcément, on pose parfois des questions compliquées. Et donc, on avait créé un premier qui s'appelle le jeu du patrimoine, l'original. C'est 40 questions sous forme de cartes. Vous l'avez aussi en version mobile à partir de la fin, à partir de début, allez, on va dire début mai, comme ça on a intégré le retard.
Grâce à un QR code?
Grâce à, vous allez pouvoir dire, bah, tiens, j'ai envie de jouer à ce jeu-là en version mobile.
Ah, bah, directement.
Ça évite de perdre les cartes, par exemple, dans la voiture. Et l'idée du jeu, c'est 44, il y a, une question, 4 réponses. Vous avez la réponse sur la carte, mais vous avez aussi un petit QR code qui vous permet de, bah, soit j'ai pas envie de regarder la réponse tout de suite, je vais aller sur la fiche qui va dire, bah, je vais prendre par exemple une question, combien il y a de cheminées au château de Chambord? 100, 200, 300, 365.
365.
C'est 365 la réponse. Mais en imaginant, vous saviez pas la réponse, connaissez pas la réponse, vous pouvez aller voir ce QR code et vous allez arriver sur la fiche du château Chambord où il y a la réponse, bien sûr, dans la fiche.
Et en plus, on aura un maximum d'explications.
On aura un maximum d'explications que, bah, il a vécu que, il est passé que 40 jours seulement, il a dormi que 40 jours, le roi qui a commandé, alors, je laisserai aux spectateurs et aux auditeurs le loisir d'aller regarder quel était le roi qui a dormi que 40 jours au château de Chambord. Et ça permet de découvrir. Et puis de dire, tiens, bah, avec les enfants, on peut faire de la barque au château de Chambord. Une petite barque, machin.
Ah oui.
Ah, c'est sympa pour les enfants. Alors, plutôt en bas âge, les ados, ça serait plus sur d'autres choses. Et l'idée, c'est ça. Et on a créé ce jeu et on en a créé une version un peu plus pour les enfants où il n'y a que 20 questions. Hein, parce que les enfants se lassent assez vite, mais qui est effectivement des questions un peu plus enfantines pour le niveau de l'école, en fait, donc les 6-12 ans, puis un niveau ado qui va être plutôt collège-lycée, 12-18 ans.
Oui, ça peut être des questions sur les châteaux, mais pas que. J'ai vu notamment une carte avec une question sur une fleur.
Oui, voilà. Quelle est la fleur qui représente la royauté en France? Le lys, la rose, et j'ai plus de...
Mais ça rejoint quand même toujours le patrimoine.
Et ça rejoint le patrimoine, là ça va envoyer vers le château de Versailles.
On va arrêter là, merci beaucoup, vous avez bien présenté en tout cas votre projet. Anne-Marie nous attend pour le magazine Handicap. Et désolé, je suis obligé de vous écourter. Il y a combien de jeux de cartes qui existent
aujourd'hui? 4. Une 4. Pour les petits, une pour les ados, une générale et une spécifique au château de la Loire.
Et à chaque fois, c'est une quarantaine de cartes pour 40
questions. Entre 20 et 40 questions.
D'accord.
Pour 10 à 20 minutes de jeu.
Merci beaucoup, Michael Mézère, d'être passé ce matin, créateur de la plateforme Château en France. Et vous avez aussi lancé des jeux de cartes autour du patrimoine. Vous revenez de toute façon sur notre antenne pour parler un peu plus technique cette fois-ci. Ce sera donc ce vendredi entre 9h30 et 11h dans l'émission L'économie en direct avec Jacqueline Voraz. Très bon mercredi.
Merci à vous.
Et à bientôt, Michael. C'était passionnant. Je pense que vous allez revenir pour nous présenter d'autres musées, d'autres activités.
En espérant
châteaux.
Qu'on en fasse un sur le Val d'Oise. On est en train d'y travailler.
Ah bah oui.
Spécial Val d'Oise. Il faudra que je vienne vous le présenter.
Pas de problème. À bientôt.
À très bientôt.